Bonjour, le président américain Donald Trump a déclaré que Washington et Téhéran étaient actuellement engagés dans des pourparlers, l'Iran prétend le contraire.
Le Conseil de la paix s'aligne officiellement sur la position israélienne concernant le fait que le désarmement du Hamas doit avoir lieu avant le retrait de Tsahal de Gaza. À compter d'aujourd'hui et pendant 3 jours, Rome reçoit des délégations libanaises et israéliennes pour une nouvelle session de pourparlers sous médiation américaine.
Et puis enfin en Belgique, le gouvernement a validé des dépenses militaires malgré des avis défavorables.
Le président américain Donald Trump a déclaré hier que Washington et Téhéran étaient bien engagés dans des pourparlers.
Il réfute ainsi les affirmations iraniennes qui affirment le contraire et accusent la République islamique d'être, je cite, « incroyablement hypocrite ». Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump s'en est pris à l'Iran et a insisté sur le fait que les négociations concernant la réouverture du détroit d'Hormuz avaient déjà commencé. Et que d'autres étaient prévus dans l'immédiat. Les dirigeants iraniens sont incroyablement hypocrites. Ils demandent une rencontre. Certains diraient même qu'ils supplient. Les pourparlers commencent. D'autres sont prévus dans un avenir immédiat. Et ils affirment ouvertement et fièrement qu'ils ne mènent aucune discussion, qu'il n'y a aucun sujet de discussion et qu'ils ne traitent qu'avec Oman, a écrit Donald Trump. Ils enchaînent ensuite avec leur discours habituel, affirmant que le détroit de Hormuz sera fermement contrôlé par eux, alors qu'il est déjà entièrement sous le contrôle de la marine américaine et de notre blocus, c'est ce qu'a affirmé le président américain.
Et dans ce contexte, l'Iran continue à nier. Le ministère iranien des Affaires étrangères assure qu'il n'y a pas de négociation en cours entre l'Iran et les États-Unis, ni de réunion prévue prochainement.
Oui, c'est en tout cas ce qu'a rapporté le Wall Street Journal, hein, qui cite le porte-parole du ministère Esmaïl Baghaï, qui a déclaré au quotidien que tous les négociateurs iraniens se trouvaient toujours dans le pays, à l'exception du ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, qui effectuait une visite dans un lieu de pèlerinage en Irak. En revanche, le ministère iranien des Affaires étrangères a confirmé que les pourparlers avec Oman concernant l'avenir du détroit d'Hormuz se poursuivaient, et tant Oman que l'Iran ont indiqué que des progrès avaient été réalisés au cours des derniers jours.
Toujours à propos de l'Iran, le corps des gardiens de la révolution islamique iranien a attaqué une base militaire américaine au Koweït, c'était ce matin.
Oui, l'attaque a été menée à l'aide d'au moins 3 drones, selon une source. Les médias arabes locaux ont rapporté que de fortes explosions avaient été entendues dans la province irakienne de Bassora, toujours selon l'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim, la province de Bassora qui est limitrophe à la fois de l'Iran et du Koweït.
Et la République islamique a affirmé également avoir empêché une opération militaire américaine sur son territoire.
Dans une interview accordée à la télévision d'État iranienne, le général Mohsen Rezaei, conseiller du guide suprême Mojtaba Khamenei, a déclaré que les forces de sécurité iraniennes avaient déjoué un projet d'offensive terrestre des États-Unis. Selon lui, cette tentative serait intervenue après des frappes visant des ponts dans la province d'Hormozgan, dans le sud de l'Iran, près du stratégique détroit d'Hormuz. Mohsen Rezaei a averti que l'Iran ne tolérerait pas l'ouverture d'un second corridor maritime dans le détroit d'Hormuz. Il a assuré que les forces iraniennes s'en prendraient à tout navire de guerre ou à toute force militaire qui s'approcherait de cette zone stratégique. Le responsable iranien a également accusé le président américain Donald Trump d'alimenter les tensions régionales, affirmant que ses décisions pourraient allumer l'étincelle d'une troisième guerre mondiale, je cite. Pourtant, selon le New York Times, Téhéran et Mascate sont proches d'un accord permettant la réouverture du détroit d'Hormuz, mais le projet suscite des inquiétudes à Washington. Le Conseil de la paix s'aligne officiellement sur la position israélienne concernant le fait que le désarmement du Hamas doit avoir lieu avant le retrait de Tsahal de Gaza.
Dans un communiqué publié hier après une rencontre avec Benjamin Netanyahou, le Conseil de la paix affirme que Tsahal restera sur la ligne jaune tant que le Hamas n'aura pas été entièrement désarmé. Le Conseil de la paix dément ainsi les informations évoquant un départ préalable des forces israéliennes. Il rappelle que le Hamas s'est engagé auprès des médiateurs à démanteler l'ensemble de ses capacités militaires, y compris les armes légères, les infrastructures souterraines et tout le réseau de tunnels avant le retrait de Tsahal. Le communiqué souligne qu'Israël et le Conseil de la paix partagent le même objectif. Cette clarification intervient après de nombreuses critiques formulées notamment en Israël par les ministres de droite Bezalel autriche et Oritz Truk hier soir. Ils craignaient que Tsahal ne commence à se retirer avant la fin du processus. On est revenu sur cette question dans la question du jour avec Raphaël Jourdanmi à 8h45. Vous pourrez retrouver cet entretien comme tous les autres de la matinale et même toutes les émissions de la radio sur radiojudaica.be.
Tsahal a annoncé l'élimination de Mahmoud Fatahir, un commandant des forces spéciales du djihad islamique, membre de la Nourba et qui avait pris part à l'attaque du 7 octobre 2023 contre le sud d'Israël.
Il a également été impliqué dans l'enlèvement et la détention de Rom Braslavski, kidnappé lors du festival Nova, puis retenu dans la bande de Gaza par le djihad. Mahmoud Fatahir a par ailleurs participé aux cérémonies de propagande organisées par les groupes terroristes lors de la remise des otages israéliens à la Croix-Rouge au moment de leur libération. Rom Braslavski a réagi en publiant une vidéo dans laquelle il s'adresse directement aux terroristes de Gaza en arabe. L'armée israélienne vient d'éliminer un autre de ceux qui ont brisé mon âme. Vous êtes des criminels et j'étais faible à vos yeux. Vous avez fait tout ce que vous vouliez, mais maintenant, comme vous le voyez, vous êtes éliminés les uns après les autres. Si Dieu le veut, chacun d'entre vous, tous ceux qui œuvrent au sein du djihad islamique, du Hamas ou de toute organisation terroriste, vous mourrez les uns après les autres.
Le Qatar, l'Égypte et la Turquie, médiateurs des négociations sur Gaza, ont publié un communiqué conjoint condamnant les frappes israéliennes en cours dans la bande de Gaza.
Les trois pays médiateurs estiment qu'elles mettent en péril la mise en œuvre de la deuxième phase de l'accord, malgré l'acceptation, selon eux, de la feuille de route par le Hamas. Les trois pays exhortent la communauté internationale à exercer une pression nécessaire, je cite, sur Israël, pour permettre la poursuite du plan de paix de Donald Trump. Dans ce contexte, et suite aux remarques du Conseil de la paix, Israël a rappelé qu'il ne sera pas question d'un retrait de Tsahal sans désarmement effectif du Hamas.
À compter d'aujourd'hui et pendant 3 jours, Rome reçoit des délégations libanaises et israéliennes pour une nouvelle session de pourparlers sous médiation américaine.
Il s'agit d'une phase cruciale qui a pour but entre autres de développer les zones pilotes avec l'armée libanaise. Les points clés sont le désarmement vérifié des groupes armés non étatiques, comprenez le Hezbollah, ainsi que le démantèlement des infrastructures qui leur sont associées. Malgré ces avancées, les deux parties s'accusent mutuellement de violer l'accord cadre qui a été signé il y a déjà un mois.
La destruction du réseau de tunnels souterrains du Hezbollah dans la région de Beaufort a porté un coup stratégique sévère à l'organisation terroriste chiite libanaise.
Depuis des années, nous connaissions l'existence du réseau souterrain que les Iraniens et le Hezbollah avaient creusé à cet endroit, ont déclaré des officiers de Tsahal. Nous savions qu'il était destiné non seulement à la surveillance et à la collecte de renseignements, mais aussi à soutenir des tirs directs contre les localités et les positions militaires israéliennes. Ce n'est qu'après avoir mené une étude approfondie du réseau que nous avons pris la mesure de son importance cruciale dans le plan opérationnel du Hezbollah visant à attaquer Israël. Les officiers ont ajouté qu'une préoccupation encore plus grande réside dans le fait qu'une infrastructure souterraine similaire subsiste dans le sud du Liban et n'a pas encore été ni localisée ni détruite par Tsahal. L'évaluation est que les forces armées libanaises sont incapables de s'occuper de ces sites, ont-ils déclaré. Si Tsahal ne reçoit pas l'autorisation des dirigeants politiques en raison des restrictions américaines, le Hezbollah continuera à conserver des atouts stratégiques, ont déclaré ses officiers. Ce n'était pas un hasard si toutes les infrastructures n'étaient pas interconnectées. Ils étaient prêts à rester retranchés dans ces installations souterraines pendant des mois, tout en continuant à tirer sur Israël. Par ailleurs, les officiers du commandement nord ont souligné que Tsahal avait renforcé son emprise opérationnelle sur les centres d'activité du Hezbollah dans le sud du Liban, malgré le cessez-le-feu.
Le tribunal interne du Likoud a infligé un revers à Benjamin Netanyahou en annulant l'une des principales réformes du règlement des primaires adoptées par le congrès du parti la semaine dernière.
Les juges ont décidé que les députés, ministres et vice-ministres, qu'ils soient en fonction ou anciens titulaires, ne pourront pas se présenter sur les sièges réservés aux différentes circonscriptions régionales. Le tribunal a également précisé qu'un député en exercice ne pourra se présenter sur un siège réservé à un district qu'à une seule condition, démissionner préalablement de la Knesset et renoncer à tout financement public destiné à sa campagne interne. Cette décision réduit considérablement les options offertes aux élus sortants lors des prochaines primaires. La décision intervient alors que Benjamin Netanyahou a déjà 8 places réservées sur la future liste électorale du parti. Il n'en reste donc que 15 pour l'ensemble des candidats. Cette nouvelle décision renforce les les chances des candidats qui n'ont jamais siégé à la Knesset et pourrait entraîner un profond renouvellement de la représentation du Likoud au Parlement israélien et faire place à une nouvelle génération de candidats. Aux États-Unis, à présent, les Juifs ont été la cible de 70% de l'ensemble des crimes de haine commis à New York en juillet 2026.
Oui, et ce, alors que le nombre de crimes de haine à l'encontre des Juifs et d'autres groupes n'a cessé d'augmenter depuis l'entrée en fonction du maire de New York, Zohran Mamdani, au début de l'année. Depuis le 1er janvier 2026, date de l'entrée en fonction de Zohran Mamdani, le nombre total de crimes de haine a augmenté de 9,4% par rapport à la même période l'année dernière, passant de 329 l'année dernière à 360 cette année. Les crimes de haine antisémite ont augmenté de 8,5% cette année, avec 205 cas recensés à ce jour contre 189 sur la même période l'année dernière. Les Juifs ont été la cible de 57% de l'ensemble des crimes de haine commis dans la ville depuis le début de l'année. Selon la police de New York, rappelons que les Juifs représentent environ 10% de la population de la ville. Une thérapie combinant psychothérapie intensive et administration contrôlée de MDMA pourrait représenter une nouvelle piste de traitement pour les soldats israéliens souffrant de troubles de stress post-traumatique.
Ce sont les premiers résultats d'une étude clinique menée à Afoula. D'après les données préliminaires de cette étude, environ 80% de participants ont constaté une diminution significative de leurs symptômes après le traitement et la majorité d'entre eux ne remplissaient plus les critères diagnostiques du PTSD à l'issue de ce protocole. Cette recherche intervient dans un contexte de forte augmentation des besoins en santé mentale en Israël depuis le 7 octobre. Les diagnostics de stress post-traumatique ont augmenté de 70% depuis le début de la guerre. Environ 15% des soldats ayant vécu des traumatismes importants sur le champ de bataille peuvent développer un stress post-traumatique chronique, explique Ronen Sidi, psychologue clinicien et co-responsable de l'étude. Ancien soldat de l'unité des Douves des Vannes, il souligne que les personnes touchées sont souvent des individus résilients et engagés qui ont pourtant du mal à demander de l'aide ou à parler de leur peur, de leur culpabilité ou de leur sentiment d'impuissance. Le protocole étudié ne repose pas sur la MDMA seule, mais sur son utilisation comme un outil venant accompagner un travail psychothérapeutique approfondi. Le traitement comprend 13 séances de thérapie, dont 3 séances supervisées, durant lesquelles la substance est administrée sous contrôle médical strict. Pour les responsables de cette étude, l'objectif est d'ouvrir une nouvelle possibilité thérapeutique à des soldats confrontés à des traumatismes parfois lourds. Le débat a été relancé en Israël après de nouveau un suicide, non pas d'un soldat, mais de quelqu'un qui avait perdu sa fiancée à Nova. Ils sont des milliers en Israël dans ce cas.
Un nouveau départ en Israël pour près de 140 juifs venus de France. Ils ont atterri lundi à l'aéroport Ben Gurion à bord d'un vol spécialement organisé pour les familles par le ministère de l'Alia et l'agence juive.
Oui, et un vol qui montre 80 enfants et adolescents parmi les passagers qui font leur premier pas dans les écoles israéliennes dès la rentrée. La doyenne du groupe, Annie, 85 ans, a elle choisi de rejoindre Israël pour se rapprocher de ses enfants. L'Alia française poursuit sa progression. 2023, 1097 personnes. 2024, 2234. Et les chiffres de 2025 sont à 3357. Selon le ministère de l'Agence juive, 2400 Français auraient déjà fait leur Alia depuis le début de l'année 2026. Soit 30% de plus qu'à la même période l'an dernier. Et depuis le 7 octobre, plus de 20 000 personnes en France ont également ouvert un dossier, même si toutes ces démarches ne débouchent pas nécessairement sur un départ immédiat.
Mauvaise nouvelle pour les habitants de Tel Aviv et les fans de la ville blanche, les tarifs des parkings municipaux augmentent de 20%.
Ça pourrait n'être qu'une mesure cosmétique, mais tout de même, selon la municipalité, cette révision tarifaire vise à faire face à la hausse des coûts d'exploitation des infrastructures de stationnement. Pourtant, tout le monde va payer l'addition, les résidents, les non-résidents et les touristes. Le tarif horaire des résidents passe de 5 à 6 shekels, celui des non-résidents de 20 à 24. Les forfaits journaliers et les tarifs de nuit des parkings vont aussi augmenter. Tout cela alors que le coût de stationnement à Tel Aviv est déjà l'un des plus élevés d'Israël. Une réunion exceptionnelle entre ministres de l'Intérieur de l'Union européenne est organisée aujourd'hui pour revenir sur la catastrophe migratoire de Ceuta.
Un échange stratégique aura lieu aujourd'hui. Cette réunion entre ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne se passera en visioconférence. Elle a pour objectif de revenir sur la crise migratoire déclenchée par l'afflux illégal et inédit de dizaines de milliers de personnes à Ceuta, enclave espagnole en Afrique du Nord, au cours duquel au moins 72 migrants ont perdu la vie côté espagnol et au moins 11 côté américain. Marocain. Cet épisode a mis en avant les désaccords entre les différentes nations membres de l'Union Européenne. En effet, l'Italie ou le Danemark ont appelé à suspendre l'Espagne de l'espace Schengen, même si la ville autonome de Ceuta n'appartient pas par dérogation à cet espace libre de circulation, une position qui divise au sein de l'Union Européenne et qui a provoqué la colère de Madrid. La présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, a proposé que l'Union Européenne renforce son soutien au Maroc afin d'éviter que ne se reproduise la tentative chaotique d'afflux de 60 000 migrants vers l'enclave espagnole de Ceuta survenue la semaine dernière. Elle a également mis en garde contre toute instrumentalisation de la migration irrégulière pour faire pression sur un État membre de l'Union Européenne. Le Maroc, de son côté, a rejeté les accusations de l'Espagne selon lesquelles il aurait favorisé l'arrivée massive de migrants dans l'enclave espagnole de Ceuta, estimant que la crise trouve son origine dans une décision de justice espagnole ayant affaibli les mesures de dissuasion contre l'immigration clandestine. Un haut responsable marocain a déclaré que les autorités espagnoles auraient dû anticiper les conséquences d'un arrêt rendu le 8 juillet qui limite le renvoi immédiat vers le Maroc des migrants arrivant à Ceuta par voie maritime.
Le Parti conservateur britannique a choisi un ancien militant néo-nazi condamné pour harcèlement d'un député juif comme candidat à une élection locale.
Joshua Bonehill Payne a été condamné pour plusieurs délits. Il a notamment été reconnu coupable en 2014 d'avoir agressé un policier selon l'article. Et l'année suivante, il a été condamné à plus de 3 ans de prison pour avoir publié des contenus antisémites à la veille d'un rassemblement néo-nazi. L'année suivante, il a également été reconnu coupable d'avoir harcelé Luciana Berger, qui est juive et était alors député du parti travailliste. Il l'a traité de rongeur et de cupide malfaisante, c'est ce que rapporte le Guardian. Il dirigeait un groupe appelé National British Resistance. La justice allemande tranche, comparer Israël à l'Allemagne nazie est autorisée.
La Cour supérieure de Zweibrücken en Allemagne a jugé que la comparaison entre les actions de l'État d'Israël et celles de l'Allemagne nazie pouvait relever de la liberté d'expression. Il a acquitté une femme poursuivie pour plusieurs publications sur Instagram dans laquelle elle partageait un tableau comparant les actions d'Israël à celles du régime national socialiste. Une autre de ses publications montrait un drapeau israélien aux côtés d'un drapeau nazi. La Cour d'appel a estimé que cela ne constituait ni une apologie du nazisme ni une incitation pénale répréhensible à la haine. Il a considéré que les symboles nazis n'avaient pas été utilisés pour promouvoir ou glorifier l'idéologie national-socialiste, mais pour exprimer une critique particulièrement virulente de la politique israélienne. Une critique extrême ou choquante d'un État étranger ne suffit pas, dit-elle, à constituer une infraction. Le tribunal précédent l'avait condamnée à payer 2400 euros d'amende. Elle ne devra pas les payer au final. En Belgique, le gouvernement a validé des dépenses militaires malgré des avis défavorables.
L'inspection des finances a remis 41 avis négatifs au gouvernement fédéral dans le cadre de dossiers pour des investissements militaires. Dans 8 cas, le gouvernement n'a pas tenu compte de cet avis et a tout de même donné son feu vert. C'est ce qu'il ressort d'une enquête publiée dans le magazine Knack. Knack s'est penché en particulier sur le dossier concernant un hangar situé à l'aéroport de Zaventem et appartenant à Sabena Engineering. Cette infrastructure était destiné à accueillir les avions de transport militaire A400M pour leur stockage et leur entretien. Pour cela, la défense souhaitait louer le hangar à Sabena Engineering pour 217 900 euros par mois. Comme dans chaque dossier impliquant des dépenses publiques, la défense a alors sollicité un avis de l'inspection des finances, avis qui a été jugé défavorable. Dans d'autres dossiers, comme celui de la formation des pilotes, le gouvernement a également ignoré l'avis de l'inspection des finances. On termine sur une note positive. Israël a connu un excellent début de compétition au championnat du monde de jiu-jitsu des moins de 21 ans à Abu Dhabi.
Noga Rechef a décroché la médaille d'or et Yoav Solomon a remporté la médaille de bronze, marquant ainsi une première journée impressionnante pour la délégation israélienne.